17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, mon grand témoin aujourd'hui, Louis Bachou. Bonjour Louis Bachou.
Bonjour Nasser.
Merci d'être là, un tout jeune homme. Vous êtes né en 1935, donc vous étiez à la fois dans le siècle dernier et dans ce siècle-là. Et vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Et aujourd'hui, on va parler de l'algie. Un roman que vous avez sorti il y a quelques temps aux éditions Valencin, en 2006, je crois.
Oui, c'est ça.
Hein, vous avez mal quelque part? Vous savez que quand on dit l'algie, c'est...
Absolument, c'est la douleur.
L'algie, c'est la douleur. Vous avez mal quelque part,
Louis Bachou? J'ai terriblement mal à l'Algérie, vous le savez. Vous le savez, puisque nous avons la chance de dialoguer ensemble, de dialoguer parfois ensemble sur ce pays extraordinaire, quatre fois la France, qui est notre terre de pensée, à côté de cette Méditerranée qui est notre continent de pensée.
Alors pourquoi l'Algie, pourquoi pas l'Algérie? Pourquoi l'Algie, A-L-G-E?
C'est le paronyme de Algérie, ce qui me permet de dire très clairement que j'ai encore cette souffrance d'avoir été déraciné par ce siècle tumultueux qui est le XXe siècle, siècle qui a déraciné ma mère, qui a déraciné mon père, qui a déraciné toute ma famille.
On va y revenir dans un instant, qui
a fait de cette famille des nomades. Certains ont réussi à s'enraciner, d'autres ne se sont plus enracinés.
Alors, on va y revenir dans un instant, c'est là où vous portez l'Algérie en vous, et cette Algérie que peu de gens connaissent, et c'est cette Algérie du début du siècle, et en plus de la montagne et de la campagne. Louis Bachou, vous êtes quelqu'un qui embrassait les chevaux sur la bouche.
Oui, absolument. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les chevaux, les différents animaux, particulièrement les mammifères, ont été mes compagnons d'enfance. Ce sont eux qui m'ont appris d'ailleurs le respect des autres.
Parlez-nous de Claire de Lune.
Graine de Lune est un petit cheval arabe que mon père, Exouri, mon tuteur, m'avait offert pour mes 9 ans. Et ça a été mon compagnon de joie, mon compagnon de tristesse. Nous nous sommes accompagnés pendant, on va dire, notre adolescence à tous les deux. Et nous avons couru le Sidi Amar ensemble à la recherche de nos rêves que nous partagions d'ailleurs.
Et d'ailleurs, vous avez une affection particulière pour le cheval puisque vous dites le cheval est né dans la main du prophète par l'alliance du vent et du sable.
Absolument. Mais si vous lisez... Mais il est indiscutable que le cheval a été un des premiers animaux domestiqués par l'homme, et il a très bien compris l'homme, comme l'homme l'a compris. Et il y a chez lui une à la fois du chien et du chat, et il y a ce mélange qui nous permet de vivre toutes les heures de la journée, puisque le chat c'est pour le soir, et le chien c'est surtout le matin pour aller se balader et courir. Et bien là, on peut partager avec un cheval toutes les heures du jour.
Alors d'ailleurs, le cheval avec plein d'animaux, vous dites dans votre livre, l'algie, pendant une dizaine d'années, vous êtes avec les animaux, le cheval, l'âne, le chien, d'autres animaux aussi de Loire-Senis, puisque c'est dans Loire-Senis, dans un petit village de Loire-Senis où vous avez été élevé. Vous êtes né à Alger. On va revenir à Alger tout à l'heure, mais vous avez vécu une dizaine d'années dans Loire-Senis. Et vos compagnons, vos amis de tous les jours, c'était des animaux. Et en même temps, les paysans du coin qui vivaient aussi en harmonie avec eux. Vous étiez hors sol?
Oui, j'étais seul, petit, ce qu'on appelait les petits blancs. J'étais un petit blanc parmi les paysans du Sidi Amar. Nous étions sous le Sidi Amar. Le Sidi Amar était notre chef à tous. Le Sidi Amar était la montagne la plus haute, aux environs de 1980 mètres. Et le Sidi Amar, nous avons et tous appris plusieurs choses. Premièrement, que la nature est la maîtresse, et la maîtresse d'école en plus, c'est-à-dire qu'elle nous apprenait à la fois à vivre en tant qu'homme, mais en tant qu'homme parmi les autres. Parmi les autres espèces et les autres hommes. Ça a été une excellente école. Alors moi, j'étais seul à cette époque. Il y avait peu d'enfants dans le coin. J'étais le petit blanc. Le douar de Boukaïd était juste à côté. Mais le douar ne me prenait en main que le soir à la fontaine. Et donc, tout le restant de la journée, j'étais avec les bêtes. Alors, la matinée, c'était particulièrement le poulailler, et avec les canards, les poulets, naturellement les poules. Et je passais le long moment au poulailler, et ensuite, au cours de la journée, c'était naturellement graines étaient venues ensuite, graines de lune, mais nous avons... Au début, j'étais avec les chevaux, les chiens, les chats, et au fur et à mesure, j'étais dans un écosystème.
Vous collez à la peau. Exactement. Et vous dites, d'ailleurs, à propos des territoires de l'enfance, vous parlez des arbres qui parlent dans le vent.
Absolument. Je pense que nous devrions, d'ailleurs, retrouver nos sens d'autrefois, essayer de tenter d'avoir nos sens d'autrefois, parce que à cette époque, j'entendais les arbres parler, j'entendais les arbres me dire qu'ils étaient malades, j'entendais aussi les chats, les chiens.
En fait, toutes ces personnes, puisque les arbres sont des personnes, toutes ces personnes qui aujourd'hui font partie de ce qu'on appelle la culture primaire. Oui. Cette culture primaire qui est le socle, en fait, de votre existence.
Mais absolument, le socle de ma culture a été donné par quelques hommes absolument remarquables, et puis tous les animaux qui vivaient autour de moi. Et je peux vous dire que les aigles et les gypaètes du Sidi Amar m'ont fait courir après eux des journées entières, et ils m'ont appris ce que était la vie au grand air, et toute la nécessité du respect des autres espèces que cela vous impose.
Alors, dans l'Algie, dans ce livre, on a de très très beaux passages sur l'enfance, et vous dites que, en fait, on ne sait pas quand est-ce que vous êtes né dans une escale, oui. Lors d'une escale, oui. Et on ne sait pas si vous êtes présumé né, comme beaucoup de gens, est-ce que vous êtes né le 19, le 21, le 22, et à propos de votre naissance, dont vous savez pas finalement quel jour vous êtes né, vous dites « j'ai divorcé précocement avec le temps ».
Oui, vous savez que le temps, c'est la création de l'homme. Hein. Le temps, il n'y a pas de temps. Il y a tout simplement l'écoulement d'une vie. Donc, pour moi, je suis né à Alger, dans le port d'Alger. Ma mère était enceinte et nous allions vers la Grèce, parce que mon père venait de quitter les automobiles Berliers et voulait monter ses affaires. Et comme déjà l'Europe était en demi-guerre, on sentait que tout s'approchait, et mon père, qui avait peur de nous, peur pour nous, et peur d'être obligé encore de fuir, chercher en Algérie quelque chose qu'il n'a pas trouvé du premier coup, puisque nous sommes partis 22 jours après ma naissance, et ma naissance a été fleurie par ma mère par deux fois, puisque nous ne savons pas quel jour exactement je suis né, et deuxièmement, je ne sais pas non plus l'heure. Quand ma mère était contente de moi, j'étais né au moment où les oiseaux commençaient à chanter sous sa fenêtre, dans une clinique d'Alger, rue Michelet, et d'autres fois, quand elle était très mécontente de moi, eh bien, j'étais né un soir d'orage épouvantable, où la pluie couper même la parole aux hommes. Et ça, c'était épouvantable.
Alors, Louis Bachou, le territoire de l'enfance, on va continuer à parler à la fois de votre enfance, de votre mère, de votre père, de vos exils, et on va dans un instant se retrouver, et vous allez nous répondre à cette question. Vous racontez dans le livre que vous étiez à la fois exilé, il était exilé dans son pays, et il était exilé de lui-même. Vous nous dites ça, vous nous expliquez ça dans un moment.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Louis Bachou, notre grand témoin aujourd'hui pour l'Algie, magnifique roman aux éditions Valencin. Louis Bachou qui est né en Algérie, qui est de plusieurs cultures autour de la Méditerranée. Alors Louis Bachou, vous dites, puisque vous parlez de vous mais à la troisième personne, vous dites « il était exilé dans son pays et il était exilé de lui-même ».
Oui,
l'exil si revient sans arrêt dans votre livre.
Si vous voulez, quand je dis il était exilé dans son pays, je parle de la France. Mon pays est donc la France par sa culture, par sa langue, qui
c'est
est.
C'était une France d'adoption.
C'est une France d'adoption.
On rappelle que vous avez fui toutes les dictatures.
Mais nous avons fui.
Vous avez fui sans arrêt pour vous retrouver en France.
Voilà. Si vous voulez, je suis parti de Grèce, je me suis retrouvé en Bulgarie, je me suis retrouvé en France, et je me suis retrouvé en Algérie, et j'ai 4 ans et demi. 4 ans et demi, c'est le moment où, justement, tout ce qui est autour de vous, vous marque, et définit l'homme que vous allez être sur le plan culturel. Donc, qu'est-ce que... pourquoi je me sens exilé en France? Parce que le respect de la nature que nous avions tous à Boucaïne est un respect oublié, que deuxièmement, je me trouve avec des gens qui parlent moins bien leur langue que je ne la parle, troisièmement, je me trouve aussi avec des gens qui sont intéressés plus par la vie individuelle que le collectif. Le Sidi Amar Boucaïd m'a appris une vie collective. Nous vivions ensemble.
Et votre enfance, elle est prégnante de votre histoire. Et vous racontez page 31. Et pourtant, l'enfant ressurgit toujours troublé, avec la peur ancrée comme atavique du déséquilibre, de l'instable, de l'inorganisé, de l'imprévu, de l'inexplicable, de contingences sur lesquelles sa conscience rêveuse se blessait chaque fois, incapable, semble-t-il, d'assumer sans un accommodement préalable ses aspirations légitimes dans les événements du quotidien. Vous êtes tout le temps en train de... D'ailleurs, c'est vous qui parlez d'autopsie de votre enfance. Vous êtes tout le temps en train de faire d'autopsie de votre enfance.
Mais c'est absolument exact. Pourquoi? Mais je pense que les autres ne font pas assez l'autopsie de leur enfance. Ils se comprendraient beaucoup mieux. La première définition que vous devez avoir, tous, et moi-même, c'est la définition de vos limites. Mes limites, elles ont été tracées dès l'enfance. Le respect de soi et le respect des autres. Ça, c'est une première limite. Et quand je dis des autres espèces, des autres en général, tous ceux qui vous parlent. Ça, c'est une des choses qui a été extraordinairement brutale pour moi quand je me sentais exilé en France, exilé en Europe, parce que, tout simplement, dans cette nation... car j'atterris en France aux environs de 1955 pour mes études, et que je gagne d'ailleurs, eh bien je me trouve en face de gens qui se battent pour de l'argent. Et avant, on se battait tout simplement pour vivre mieux ensemble. Ça s'arrêtait là, dans le Boucaïd. Et la première partie de ma vie à Alger, on se battait pour vivre mieux ensemble. Et on ne se posait pas de questions concernant les différentes classes sociales. Moi, j'étais un petit blanc, de toute façon. J'étais parmi ce que j'appelle les pauvres. les pauvres, et donc proches des indigènes, comme l'on disait à cette époque, mais nous avons vécu là-bas des jours merveilleux qui étaient d'une simplicité grande. Pourquoi ? Parce que chacun vivait avec les autres. Et nous avons vécu avec les autres. J'ai appris le français par souris, et j'avoue que quand les anciens racontaient leur histoire à la fontaine à Boucaïne, le soir, quand il faisait beau, eh bien, par gentillesse, ils parlaient en français pour m'expliquer leur vie et m'expliquer la vie du village, du Douar. Et c'était d'une grande simplicité. J'ai appris le français avec les Arabes, comme l'on dit maintenant. C'est extraordinaire et c'est stupide de dire que la France et l'Algérie sont aujourd'hui en antipathie. C'est pas possible, si alors, vous voulez.
Louis Bachou, votre enfance, cet exil, toute votre vie, vous l'avez porté en vous, et toute votre œuvre. D'ailleurs, vous êtes architecte, ingénieur de travaux, vous avez construit des immeubles dans le monde entier. Vous êtes aussi designer, vous êtes un artiste, vous avez aussi transformé des vieilles ruines, vous les avez réhabilitées. Vous êtes un créateur, et puis vous êtes aussi un poète. Déjà dans ce livre, vous parlez de votre mère, qui était de Smyrne, originaire de Smyrne, mais vous dites de naissance autre. C'est quoi de naissance autre ?
Mais la naissance autre, c'est celle que vous ignorez. Si vous voulez, mère... Et orthodoxe dans les sept premiers évêchés chrétiens de la mer Noire, et elle est obligée de fuir en 1922 les Turcs, qui d'ailleurs décapitent mon grand-père, ensuite fuir en Grèce les Turcs, ensuite fuir les Italiens en Grèce, fuir les Allemands en Bulgarie, et fuir les Allemands à nouveau en France, et fuir les Arabes, soi-disant les Arabes, en Algérie. C'est-à-dire que ma mère est enterrée aujourd'hui à Droisy, dans un cimetière d'une contrée et d'un hameau qu'elle ne connaît pas, et où elle a terminé sa vie stupidement, ayant d'ailleurs décroché de par les hommes, puisque ceci ne lui avait apporté durant sa vie que des exils forcenés.
Alors, justement, votre mère, il y a un très beau passage sur la France et sur la patrie. Donc, d'ailleurs, on va revenir à cette histoire de patrie, et on retrouve exactement la formule de Camus avec sa mère qui lui parle de la France et de la patrie. Et en fait, pour vous, comme pour Camus, comme pour la mère de Camus, comme pour votre mère, la France, vous savez pas ce que c'est. Et cette patrie qu'on vous met dans la tête, vous la connaissez pas non plus. C'est quelque chose de complètement hors sol, suspendu en l'air. Et donc, votre enfance, votre adolescence a été imprégnée de ça.
Absolument. Si vous voulez, la patrie n'apparaît que lorsqu'on est dans une nation. Et la nation vient après le peuple. Moi, mon peuple, c'est le peuple méditerranéen, celui de la culture méditerranéenne, celui de la vague.
En même temps, dans le livre, vous parlez aussi du peuple nomade. C'est-à-dire que vous êtes un nomade, quelque part.
Et par là même, comme je suis de ce siècle cosmopolite, épouvantable et cosmopolite par les événements. Rappelons-nous d'ailleurs que nous ne sommes qu'enfants des événements. Tous ceux qui pensent que ils ont réussi autre chose que gagner sur la vie, pas du tout. Les événements leur ont été propices, c'est tout. Nous ne sommes que fils des événements. Je me répète, est-ce que vous vous rendez compte d'une famille qui fuit, qui est les Kassapides et les Papadopoulos, qui sont ma famille grecque et qui fuient cinq fois dans leur vie. Et certains de mes oncles ont abouti en Australie.
Et à propos de cet exil, vous dites, l'exil était toujours présent dans son quotidien, le principe d'incertitude toujours prégnant, aujourd'hui ici, demain ailleurs, il avait fait son trou, comme on dit, effaçant ses différences, ses spécificités, et celles qui pourtant étaient une part de son essence. Pas de famille, pas de réseau d'amis, pas de lien dit d'enfance, pas de ville, pas de village connu intimement, pas même un parc où il aurait joué avec d'autres enfants, quelques mois, des années, même pas une église où il serait entré en paroissien, pas un café où sa tête serait accueillie comme un représentant des quartiers. C'était l'exil au quotidien.
C'était vraiment l'exil, et quand je suis arrivé pour la première fois à Aix-en-Provence, j'ai été très étonné par les Français. Vous savez que je suis art et métier, et art et métier, quand nous sommes rentrés, j'étais apache. Je faisais partie de ce qu'on appelait les apaches, c'est-à-dire les étrangers, c'est-à-dire les sauvages.
Ceux qu'on regardait en coin, qu'on retrouve dans un instant. Ouais.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Avec Louis Bachou pour son beau roman L'Algie. Très bel hommage aussi au père. Père, raconte ta course automobile dans le Caucase. Père, décris-moi Istanbul, la ville que mère appelle Constantinopolis. Père, déroule l'histoire de la traversée du désert salé et des soleils où tu urinais dans les radiateurs, et de la chasse aux canards sur le Bosphore, et de Moscou sous la neige avec tes autobus qui patinaient, les moteurs hurlants, et des riches turcs qui te payaient avec de petits sacs en peau plein de diamants bruts, et des tapis tissés par les femmes des derniers harems que l'on t'offrait, et des femmes dévoilées qui pleuraient, et d'Atatürk en canotier, et de la rue de Pera où tu rencontrais. Père, raconte encore. Te rappelles-tu, nous étions tous autour de la table de la cuisine, en émail bleu moucheté de blanc, qu'on mettait dans le corridor pour ne pas salir la salle à manger. Raconte encore, père, les pages, les mieux nés de ta vie, ces images que patiemment en petites phrases. Père, oh mon père, je n'ai pas pu suffisamment me persuader et broder sur ta voix. Toi, si là, si possédé par le vombrissement du labeur journalier, toi devenu petit, toujours bon, encore inquiet, enveloppé d'urine, je n'ai pu reconstruire ta forme définitive. Et aujourd'hui, les poissons volants qui frisent la corne d'or et la vasque en vermeil qui blondit le vin rouge t'annoncent que nous allons payer ton tribut à mon âme décelée qui s'ouvre au vent et cherche la haute mer. Parce que vous n'avez jamais rencontré votre père ?
En effet, mon père était déjà très âgé, il avait 30 ans de plus que ma mère. Et deuxièmement, c'était un homme qui se taisait. Je l'appelais le taiseux, en cachette. En effet. Et cependant, aujourd'hui, encore à mon âge, je dialogue avec lui quand je me rase. Il m'avait enseigné ce qui est capital pour moi, c'est-à-dire le respect de l'environnement en général, qu'il soit collectif, humain, ou qu'il soit tout simplement naturel. Nous avons eu, par quelques mots, ma sœur et moi, nous avons eu la chance d'avoir un père qui nous a appris ce qu'était la discipline, ce qu'était le respect des autres, et d'ailleurs...
Et votre père, excusez-moi, Louis Bachou, vous oubliez de dire, c'est tout à votre honneur, un grand bâtisseur. Il a toujours bâti là où il a été, il a toujours créé. Et là, en Algérie, il s'était lancé dans la térébenthine. Il avait créé une usine à UCND. Oui. Il récoltait la résine des bois. Et c'était quelqu'un qui s'était construit lui-même, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de créer, de construire pour nourrir sa famille, pour vous nourrir, vous, son petit.
Oui, nos familles ont été toujours des familles responsables. C'est-à-dire que mon père est rentré en guerre 14-18, alors qu'il faisait son service militaire, donc il a été maintenu jusqu'en 1919, parce que le pauvre s'était révolté en 1917, et qu'il avait fait partie des nettoyeurs de tranchées, Et puis ensuite, il a gagné ses lettres de noblesse à Istanbul. Et ensuite, il est parti seul sur la route de sa famille. Et il a fait que sa famille ait toujours eu la possibilité, jusqu'à ce qu'il soit naturellement allongé et déjà terriblement meurtri, proche de la mort, il a porté sa famille. Et il l'a porté avec une sincérité, une, je vais dire même une naïveté, une... Il ne se sentait obligé de rien, il était responsable.
Et en même temps, il vous a tout appris.
Mais il m'a...
Vous alliez sur les chantiers, hein, il était... Et vous, c'est là où vous avez appris votre métier. Alors, à un moment donné, vous avez 35 ans, vous avez, dans les années 53 à peu près, il y a un véritable basculement. Votre père est tombé malade.
Ah, j'ai pas 33 ans, là.
Et là, vous n'avez pas d'autre choix que d'assumer la famille, d'aller sur les chantiers, et c'est vous le patron, et c'est vous qui téléguidez. Et en même temps, à ce moment-là, vous dites, vous entrez en dissidence avec vous-même. Au même moment où vous prenez des responsabilités, vous entrez en dissidence.
Absolument, parce que brutalement, je suis obligé de gagner de l'argent. Si vous voulez, l'argent pour moi est toujours considéré comme pervers. Il faut en avoir, que c'est le bâton, la canne qui vous permet de marcher, mais... Il est indiscutable aussi que l'on ne doit pas travailler pour de l'argent. Mon père m'a toujours montré qu'il faisait une pierre pour le mur que nous montions tous ensemble, collectivement. Et c'est quand vous racontez l'essence de Térébenthine, c'est lui qui a introduit le gemmage en Afrique du Nord et particulièrement à Boucaïde, puisque ce sont les cèdres que vous connaissez, et les pins parasols qui ont servi de gemmage. Ils faisaient de l'essence térébenthine et de la colophane, et ces deux produits n'étaient pas introduits à cette époque en Algérie. Il a construit à la fois pour lui et pour les autres, et d'ailleurs, ces ouvriers l'adoraient, et pendant les événements, l'ont même défendu. Et c'est très important pour moi. Il m'a donné un exemple. Il n'a jamais fait de cours. Il n'a jamais appris la discipline. Il donnait l'exemple. Et c'était ce qui, à mon sens, le plus caractéristique. Mon père parlait d'ailleurs un français qui était remarquable, très clair. Et deuxièmement, il savait employer le « vous » et le « tu ». Et quand il vous voyait un de ses enfants, nous nous trouvions au garde-à-vous immédiatement. C'était bien évident, car le « vous » voulait dire « fais garde à toi ». Et ça, c'est très, très important.
Alors, ce père que vous magnifiez dans le livre, qu'à un moment donné, vous avez envie de rencontrer, que vous rencontrez, on le voit à travers la foi, vos souvenirs, ce qui vous a appris en même temps par le travail colossal que vous avez fait dans votre vie, un père... dont vous savez même pas où est la tombe.
Oui, père est mort en 1961, et rappelez-vous, 1961, c'est le début de la fin, à la fois, nous avions des descentes des quartiers dits arabes, et nous avions aussi des descentes de l'armée
dite française.
C'était
des milices qui venaient de partout.
L'Algérie
de 1961 était livrée
Milices
incontrôlées, incontrôlables, et à Oran,
j'avais
eu de véritables massacres.
J'avais demandé l'Algérie, justement, au service militaire, et je l'ai fait 3 ans, mais je n'ai pas porté d'armes, et je tiens à le dire. C'est très important, j'ai refusé, j'étais dans la marine.
On y reviendra dans la deuxième
j'étais
partie
dans la marine.
De l'Algérie, mais votre père...
Et mon père est mort en 1961, je suis arrivé c'était l'hôpital du Saint-Dé, et à l'hôpital du Saint-Dé, eh bien, père était en train de mourir et m'attendait. Il est mort dans mes bras, je suis arrivé d'Oran, et je l'ai pris dans mes bras, il est mort, et nous l'avons enterré dans les 48 heures, car on ne pouvait pas attendre. Père était...
Au cimetière du Saint-Dé.
Pardon ?
Au cimetière,
Du Sunday. Et depuis, nous ne savons plus où il est. Et d'ailleurs, c'est un de mes problèmes. Avant que de mourir moi-même, eh bien, je veux aller sur ces terres qui ont été peut-être ennoblies par la dépouille de mon père.
On continuera, Louis Bachou, à explorer tout ça dans l'Algie 2, parce que vous avez droit à deux grands témoins pour l'Algie. Donc, on se retrouvera dans le grand témoin numéro 2 pour l'Algie. Et on, bien sûr, on parlera du père, de la mère, et on parlera d'Alger, et on parlera d'Oran, et on parlera de tout ce qui s'est passé, de cette Méditerranée, de comment vous avez embrassé la vie de votre œuvre, et de comment vous voyez cet avenir, un avenir que l'ancien révolutionnaire Aït Hamed, et Aban Ramdan d'ailleurs, voulait que à la fois cette Algérie devienne le Brésil de l'Afrique du Nord, avec toutes ses communautés, peu importe d'où elles viennent, mais qu'elles construisent à l'indépendance un pays nouveau. On y reviendra dans le numéro 2, grand témoin consacré à l'Algie aux éditions Valencin. Louis Bachou, merci pour cette venue aujourd'hui et à très bientôt.
Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.